Donc, première idée, c'est revenir sur la question de l'analyse a priori. Elle a été vraiment remarquablement traitée par les orateurs ou oratrices qui m'ont précédé. Je voudrais dire deux mots sur l'analyse a priori chez Mercier. Il y a d'abord cette idée que, pour lui, l'analyse a priori, c'est un moyen de mise à l'épreuve des hypothèses scientifiques. C'est l'aspect épistémologique de l'analyse a priori qui est extrêmement intéressant. À un certain moment, Isabelle Stengers avait dit « Il faut que les sciences de l'homme et de la société trouvent des moyens de mettre à l'épreuve les assertions des sciences de l'homme et de la société. » Donc ça, pour moi, l'analyse a priori, c'est comme ça que ça peut fonctionner aussi. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai apprise de Alain, qui nous disait ça dans un cours célèbre et merveilleux des années très anciennes, où il faisait un cours en maîtrise de sciences de l'éducation à Aix-en-Provence. Donc, il y a dans cette idée un texte très beau que je ne me lasse pas de relire, donc je vais vous donner le plaisir d'en relire quelques extraits. C'est un texte de Mercier et Salin dans une école d'été, dans une université d'été pour les professeurs. Et voilà une question qu'on posait. L'analyse a priori relève-t-elle de l'étude des situations didactiques proprement dites? Certainement. Elle vise à produire une description pertinente des formes de vie scolaire d'un savoir mathématique donné, en recherchant les caractères de la situation qui influent sur la forme et la signification des comportements manifestes vis-à-vis de ce savoir. Elle cherche aussi à comprendre les relations de ces savoirs avec les savoirs anciennement présentés, avec les savoirs personnels des acteurs du système didactique. Et donc, c'est la preuve irréfutable que Mercier était déjà un anthropologue du génie quand il était petit, puisque on voit que ce qu'il a écrit à cette époque-là éclaire considérablement, je crois, ce qu'il a écrit par la suite. Il y a une continuité réelle. Regardez ce que Mercier dit en 2008 dans le texte cité par Marie. « Les formes de vie d'un corps de savoir renvoient pour nous à une écologie humaine ou une anthropologie, parce que la description qu'on en donne comprend le compte-rendu de leur vie en situation. » Il y a une espèce de vision vitaliste des savoirs qui, chez Mercier, qui me paraît extrêmement intéressante. Et pour continuer, on revient donc là en 88. Alors l'analyse a priori doit permettre d'étudier non seulement des élèves, mais aussi bien l'enseignement. Oui. Ce que nous trouvons lors d'une observation ainsi préparée, ce sont les sujets didactiques, les élèves, le maître, ou aussi bien le savoir, et leur manière de réussir ou d'échouer à vivre ensemble pour réaliser les buts qui les ont réunis. Et donc on est vraiment là dans une vision des choses qui est celle, je te disais, de l'action didactique conjointe. Et il y a un autre aspect sur lequel je voudrais dire, voudrais insister aussi, c'est le fait que de la généralisation de l'analyse a priori. Je crois que c'est Maggie ce matin qui a rappelé l'article c'est Serge qui a rappelé, Maggie l'a rappelé, Serge a montré une citation d'un article de 2006, ça c'est l'idée de 2016, c'est l'idée que l'analyse a priori, c'est pas l'analyse a priori de ce que font les élèves, ni même de ce que font le savoir, de ce qu'est le savoir, de ce que sont les élèves, mais c'est l'analyse a priori du système didactique, et le professeur est inclus là-dedans. Deuxième point sur lequel je voudrais dire un mot, c'est la participation des élèves à l'enseignement. Donc ça, c'est le titre d'un des ouvrages, d'un des articles majeurs de Alain Mercier, en 1998, dans RDM. Bon, l'idée qui me paraît très très intéressante, enfin, il y en a plein, mais il y a en particulier l'idée que l'enseignement, donc, c'est une fonction dans le système didactique. Et donc, puisque c'est une fonction, elle peut être accomplie par n'importe lequel des agents du système didactique. Donc il est possible de trouver de l'enseignement par l'élève. Et donc dans l'article en question, suite aux travaux qui avaient été faits sur des situations ordinaires dans des classes broussaldiennes, on retrouve cette idée-là. Et il y a aussi l'idée que pour qu'un élève enseigne, c'est la troisième puce là, certaines conditions doivent être réunies. Il y a un espace socio-épistémique de l'institution didactique. Il y a vraiment la nécessité d'une didactique sociologique. En reprenant ce par quoi Marie a fini son exposé, c'est-à-dire qu'il y a une vision, la didactique, de mon point de vue, ce que nous montre Mercier, c'est qu'elle ne peut pas s'affranchir d'une vision sociologique de la connaissance. Il faudrait préciser, mais enfin, on va pas le faire tout de suite. Donc il y a un rôle fondamental dans cette histoire-là du temps didactique, à partir du travail crucial de Yves sur ce point, de Yves Chevalard sur ce point, et il y a un développement des apports aussi bien de la TAD que de la TSD, et au-delà du temps classique, vers une théorie des épisodes didactiques dont on a parlé, dont je voudrais dire maintenant quelques mots. L'idée, c'est que... Alors, on a dit ce matin que Mercier, il était anti-essentialiste d'une certaine manière, et on a raison de le dire, je pense, mais si on a, si on a une vision, risquons la minute culturelle spinoziste de l'essence, vue par Deleuze, Deleuze dit l'éthique de Spinoza, c'est une éthologie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Pour Deleuze, Spinoza se centre sur l'essence, mais l'essence, c'est d'une certaine manière ce que les gens font. Alors je trouve que de ce point de vue-là, Mercier est tout à fait spinoziste version Deleuze. Donc il y a l'idée que finalement la centration sur l'élève, c'est pas une espèce de, pour reprendre une expression forte de Yves Chevallard, c'est pas un évergétisme, c'est pas oh, on va faire attention à ces pauvres petits élèves. On va faire... Non, c'est une centration logique et grammaticale. Donc vous voyez ce que j'écris en dessous. Finalement, si le professeur gagne, si et seulement si l'élève gagne, ça veut dire qu'il y a une nécessité grammaticale à se centrer sur l'élève. Et donc, l'essence du système didactique, il tient à l'élève. Elle tient à l'élève. Elle tient à la nature et à l'intensité, j'écris, de la puissance d'agir dont l'élève est rendu et se rend capable. Là aussi, c'est une vision, d'une certaine manière, vitaliste du système didactique. Alors, je voudrais, par rapport à ce qui a été dit auparavant, ce matin, par Magui en particulier, et tout à l'heure par Marie, je voudrais revenir sur la notion de la didacticité, en prenant, d'une certaine manière, un peu le contre-pied de ce qu'a exprimé Marie, mais c'est plus fun, pour dire que pour moi, la didacticité, c'est un concept majeur de la pensée d'Alain Mercier. Et pas simplement un concept, comment dire, nostalgique ou d'un souvenir. Si on dit... alors, il y a premièrement l'idée de dimension adidactique. Mais ce n'est pas tellement ça qui va montrer que c'est un concept majeur. Mais je rappelle que pour lui, j'ai trouvé une définition du fonctionnement de la dimension adidactique, de la didacticité, hein, fonctionnement adidactique d'une relation didactique. Il dit bien qu'il faut sortir la didacticité juste avant de la situation, hein, de la seule situation, relatif à un objet de savoir pour lequel un élève a rencontré de l'ignorance comme un besoin de savoir et des moyens de satisfaire ce besoin. La dimension didactique de la relation didactique, c'est ça. Et quand on regarde l'idée de biographie didactique, on en arrive à quelque chose de... Finalement, il y a une définition très claire de ce que c'est qu'un épisode biographique chez Alain, et elle est fondée strictement sur la notion d'adidacticité. C'est-à-dire, chez Alain Mercier, 1998, s'il n'y a pas d'adidacticité, il n'y a pas d'épisode biographique. Il dit lui-même, l'efficacité biographique d'un épisode didactique est rapportée à l'adidacticité dont un épisode didactique est porteur. Mais comme l'a dit Marie, évidemment, cette adidacticité-là n'a plus grand-chose à voir avec la didacticité originelle de Brousseau. Elle n'a plus grand-chose à voir, mais elle est peut-être tout contre, en fait. Ça serait encore à discuter. Donc l'idée, la didactique des épisodes, la théorie des épisodes didactiques, c'est vraiment un transfert de la didacticité à l'ordinaire. Et je pense que je suis tout à fait dans la même sensibilité que Marie lorsqu'elle dit que, finalement, il y a cette idée de centration sur l'ordinaire, mais qui n'est pas une centration en soi, qui peut ensuite revenir à l'ingénierie, pour peu qu'on étudie les ingénieries comme on étudie de l'ordinaire. Alors, l'intérêt d'une biographie, de l'approche biographique, la théorie des épisodes, dont je pense que vraiment il faudrait que Alain la... Là, comme il est à la retraite, il a du temps, enfin, maintenant, il a que ça à faire. Donc il faudrait vraiment qu'il continue à la développer. Oui, donc je disais, c'est vraiment... ça a l'effet de... Ça lutte contre l'effet d'obscurcissement pour le professeur et d'aliénation pour l'élève du contrat. En fait, le contrat didactique, c'est la meilleure et la pire des choses, au sens où, effectivement, c'est une machine à laminer les personnes, d'un certain point de vue, et avoir une vision, une théorie des épisodes, c'est regarder finalement quand les gens ne sont pas laminés par le contrat. On pourrait le voir aussi comme ça. Donc, vision anthropologique, il y a une parenthèse en trop. Et donc j'en reviens à cette idée de la didacticité. La notion de la didacticité, elle est donc notion centrale en didactique. Alors évidemment, il faut la penser, la décrire, etc. Pour l'étude anthropologique et pour la production ingénier plus RIC, non, c'est juste une erreur d'écriture. Et donc je reprends, notion centrale en didactique, à la fois pour l'étude anthropologique et pour la production ingénierique. Pourquoi ? Parce qu'elle dialectise la didacticité sociale et épistémique, structure et agentivité, jeu et joueur. J'ai ajouté la référence, les italiques ce matin, en écoutant Alain. Les biographèmes dont il parle, qui me semblent une invention profonde, sont révélateurs d'une certaine manière de la relation jeu-joueur. C'est-à-dire qu'elles sont révélateurs, ils sont révélateurs aussi bien du fait qu'il y a un jeu et de la structure même du jeu, que du fait qu'un jeu, il est joué, donc il dépend de la manière dont les joueurs le jouent. Et donc, pour moi, dans la notion d'épisode didactique, il y a cette idée-là. Je voudrais maintenant aborder un troisième point, qui est celle d'une structure dont on n'a pas beaucoup parlé pour l'instant, mais qui est la proposition de Alain aussi, dans son travail sur les systèmes sémiotiques, de notions et notations. Alors, l'idée de notion et notation, chez lui, pour moi, ça considère une praxéologie, ça regarde la praxéologie comme finalement la production d'un système d'inscription et d'un langage associé. Autrement dit, vous voyez que par exemple, par rapport à une définition classique de praxéologie, il y a l'accent, l'a mis sur le système d'inscription. Et donc, la praxis, dans cette perspective-là, c'est vraiment une structure de forme symbolique. Donc dans son idée de notion-notation, il y a la notion, d'une certaine manière, pour aller très vite, c'est le concept, et la notation, c'est le système sémiotique qui représente la structure à laquelle le concept est immanent. Alors, quand on travaille sur notion-notation, je pense qu'on retrouve le concept et son immanence aux situations. Je pense que la didactique a eu tort de se priver, de se priver de la notion de concept, sans voir peut-être suffisamment qu'il y a des concepts immanents aux situations, et que c'est une tâche extrêmement intéressante de voir comment les concepts sortent des situations. Et ce que disait Marie tout à l'heure sur le fait que la très grande habileté d'Alain à voir quelles sont les connaissances qui sont incluses dans un fonctionnement didactique in situ, pour moi, c'est c'est une habileté conceptuelle. Évidemment, ce n'est pas le concept tel qu'on le voit classiquement. Donc je dis aussi que cette notion de notion-notation, ça nous amène à réfléchir à des systèmes sémiotiques sans sémiologisme. Alors le sémiologisme, ça serait le fait, c'est assez fréquent le sémiologisme, et même d'ailleurs en didactique des mathématiques, le fait qu'on va travailler une théorie sémiotique et qu'on va tout comprendre à travers une théorie sémiotique. Et puis ça nous donnerait aussi des outils pour comprendre la logique inférentielle de la pratique. C'est-à-dire que la pratique, elle est forcément construite dans une logique qui est partagée entre le professeur et l'élève. Mais cette logique, elle est partagée si et seulement si il y a des systèmes de signes qui nous donnent la possibilité, qui donnent la possibilité au professeur et à l'élève de la partager, cette logique. Et c'est ça, de mon point de vue, de ma vision, limitée évidemment, et partielle, et c'est ça que Alain, de mon point de vue, nous apporte. Donc l'idée de notion-notation, Alain a fait un cours à Paris 7 il y a quelques années, où justement il travaillait sur des systèmes sémiotiques, alors j'en ai indiqué certains, une carte de géographie, un document historique, un schéma biologique, l'algèbre, etc., des équations de type algébrique, etc., pour montrer que finalement, cette vision des choses sémiotiques, avec notion et notation, c'est un moyen très précieux pour s'engager justement dans une perspective, c'est un outil très précieux pour s'engager dans une perspective comparatiste avec les spécificités et les généricités. Donc pour moi, ça nous amène ça à comprendre dans la lignée ouverte, je pense par en didactique des mathématiques en tout cas, par Yves Chevallard et Mariana Bosque dans leur travail sur les systèmes sémiotiques, ça nous amène à considérer vraiment très très sérieusement comment finalement la enseigner quelque chose à quelqu'un, l'activité didactique, c'est une question de sémiose, c'est une question de production et de déchiffrement plus ou moins conjoint de signes. J'en arrive à mon avant-dernier point. On a combien? 20 minutes, c'est ça? Un mot sur la question de une des choses que j'ai toujours beaucoup appréciée chez Alain, c'est cette manière de principe de symétrie. Alors, c'est un principe de symétrie politique et c'est aussi un principe de symétrie épistémologique, c'est-à-dire cette idée de dire qu'on va regarder des pratiques mathématiques, on va regarder des pratiques mathématiques très communes, on va regarder des pratiques mathématiques plus savantes, mais en tout cas, d'une certaine manière, elles ont une égale dignité et sont intéressantes de la même manière pour l'anthropologue didacticien. Et ça nous amène vraiment la compréhension du fait que les connaissances et les savoirs sont au cœur de l'activité commune. Cette idée qu'il y a une réelle, il a encore redit ce matin, il y a une réelle densité épistémique des pratiques. Et donc pour moi, il y a la question de la modélisation des pratiques de savoir. Il y a une longue citation là que je trouve très très belle et très pertinente. L'idée que les sociétés donc inventent des genèses artificielles des savoirs élémentaires, que les écoles sont des institutions qui reproduisent des conditions minimales d'une apparition de ces savoirs, qu'on n'échappe pas à ce processus de reproduction et de transposition, et les savoirs visés appartiendront à une configuration anthropologique jusque là inouïe, c'est-à-dire artificielle et scolaire. À partir de là, je pense que c'est important de réfléchir à cette idée qu'il y a une genèse, à cette distinction entre genèse artificielle des savoirs et modélisation des pratiques sources. Je pense que, d'une certaine manière, je crois d'ailleurs que dans le travail de Yves Chevallard, il y a cette idée évidemment de parler plutôt de praxé, quand il parle plutôt de praxéologie plutôt que de savoir, c'est bien dans cette idée. Et je pense on parlait du vocabulaire dont il faut se déprendre. Sans doute qu'un vocabulaire dont il faut se déprendre, c'est celui de savoir. On a encore des efforts à faire, je crois, pour en quelque sorte actionnaliser ou rendre à l'action, rendre à la pratique la vision qu'on peut avoir des savoirs. Enfin, dernier point sur ce quatrième point-là, je me disais récemment que, finalement, dans la théorie de la transposition didactique, ou dans la transposition didactique comme concept et comme théorie, il y a cette idée centrale de dépersonnalisation. Et l'intuition que j'avais, c'est qu'à travers la dépersonnalisation, on peut avoir, excusez le barbarisme, mais une désactionnalisation. C'est-à-dire qu'en dépersonnalisant, on peut perdre la pratique, et le fait qu'on puisse perdre la pratique n'est pas sans importance sur ce qu'on a vu, par exemple, dans la loi du collège. La seule fois où on voit, la seule fois où on voit une situation didactique qui ressemble à une situation didactique, c'est quand finalement il y a une forme de lien à une pratique qui est celle d'une personne. Et ça me semble donc le musicien. Et là, je pense qu'il y a vraiment à réfléchir sur les formes de vie nouvelles qu'on veut imposer ou qu'on veut construire dans le renouveau d'une forme scolaire. Alors, sur le programme anthropologique d'Alain, je remets une dernière citation qui me semble vraiment particulièrement intéressante aussi, souvent quand on parle de la spécificité. Alors effectivement, je pense que c'est très intéressant, très important de dire d'abord spécificité de quoi, par rapport à quoi. Spécificité, ça ne veut pas dire, comme on vient de le dire tout à l'heure, comme Marie l'a dit tout à l'heure, forcément spécificité du savoir, il peut y avoir... Bon, il faut être clair. Mais là, sur les spécificités du savoir, on voit bien que finalement, encore une fois, cette vision vitaliste des savoirs, les formes de vie d'un corps de savoir renvoient à une écologie humaine ou anthropologique. Au passage, écologie humaine ou anthropologique, ça commute. Parce que la description qu'on en donne comprend le compte-rendu de leur vie en situation. Une des conséquences, c'est qu'on ne peut pas imaginer que deux savoirs de forme épistémologique distincte soient enseignés de la même manière, qu'il deviendra nécessaire d'inventer des manières d'enseigner pouvant garantir certaines propriétés des savoirs dont on vise la transmission. Là, pour moi, il y a vraiment une espèce de vision très forte et très heuristique en même temps de la spécificité, non pas la spécificité comme l'espèce de, vous savez, de d'outils à l'usage des gardiens du temple, mais spécificité comme... l'idée de la spécificité, c'est, pour moi, c'est l'idée de rendre justice au savoir humain. Hein, et c'est pas le fait de dire... c'est pas le fait de définir des précarés. Et donc, finalement, j'en arrive tout à fait presque à la fin, tout à fait presque, au programme, ce que j'appellerais programme anthropologique et programme ingénierique. Je pense que la didactique qui se bâtit petit à petit, parmi les travaux des didacticiens de toute discipline, de toute obédience et de tout champ, et en particulier dans le travail même de d'Alain, cette didactique, elle est en train de construire quelque chose d'assez spécifique, d'assez original, je risquerais d'assez nouveau comme science. C'est-à-dire c'est une science, de mon point de vue, qui est à la fois anthropologique et ingénierique. Et finalement, des sciences qui soient à la fois anthropologiques et ingénieriques et qui le revendiquent comme telles, il y en a peut-être assez peu. L'anthropologue qui va étudier les givarots, il ne fait pas d'ingénierie sur le fonctionnement des givarots, en général. Et l'ingénieur, souvent, rechigne un peu à faire de l'anthropologie. Or, je pense que ce que nous montre Mercier, avec le long mouvement qui a été décrit par les orateurs, oratrices précédentes, c'est bien cette idée qu'il y a la didactique, c'est de l'anthropologie de l'ingénierie, il y a une spécificité de l'anthropologie didactique comme anthropologie du travail des savoirs, il y a, ou des pratiques de savoir, si je veux être... conséquent à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une spécificité de la didactique comme science ingénierique, c'est-à-dire comme science du génie didactique, ce que Mercier a montré très tôt dans un livre donc, qu'il a co-dirigé, Le génie didactique, dans lequel tout le monde a bien compris qu'il ne parlait pas que de lui. Et le dernier point, donc, c'est je pense qu'il nous fait comprendre ce que pourrait... Que peut un didacticien ? Pour reprendre la célèbre formule spinoziste, que peut un didacticien ? Spinoza, ce n'était pas le didacticien. Un anthropologue, donc, dédié à la participation objectivante aux ingénieries coopératives. Voilà, ça pourrait être... c'est ce que, de mon point de vue, en tout cas, je retire comme la dernière mouture de l'avancée... de l'avancée mercirenne ou merciresque. Donc, j'ai encore une conclusion, juste deux ou trois points. Je pense que moi, ce que j'ai appris d'Alain Mercier, enfin ce que je pense avoir appris, c'est cette idée que d'abord il n'y a pas de cette coupure entre les valeurs et les faits dont on parle, qui ont été au principe du fonctionnement scientifique, et que lui, sans lire Hilary Putnam en 2002, puisqu'il avait cette posture bien avant, donc cette coupure entre les valeurs et les faits dont il a pris congé tout de suite. C'est-à-dire que ce qu'on apprend avec Mercier, c'est que les valeurs aussi sont des outils rationnels, ils sont à soumettre à la même analyse que les faits. Ensuite, ce qu'on apprend aussi avec lui, c'est que la didactique, c'est du politique. Alors, il a commencé par la politique, nous disait-il ce matin, mais je pense que sa vision de la didactique a toujours été d'une certaine manière politique, mais pour moi, vraiment au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il a toujours... J'ai jamais eu affaire... J'ai jamais eu l'impression, en travaillant avec lui, d'avoir affaire à un militant, mais j'ai toujours eu l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui fait de la politique au sens de le plus condorcetien du terme, si on veut, le plus révolution française du terme, ou révolution américaine du terme. C'est bien cette idée-là qui m'a vraiment profondément touché dans le travail d'Alain. Alors pour conclure tout à fait, j'ai pas fait de belles diapos comme Marie avec des remerciements, je l'ai regretté, je le regrette encore, et je le regretterai sans doute longtemps, mais je voudrais remercier très, très chaleureusement Alain, qui m'a, d'une certaine manière, qui a été mon initiateur en didactique. C'est pas forcément la meilleure chose qu'il ait faite de sa vie, mais enfin, en tous les cas, c'est de lui que j'ai appris beaucoup de choses de ce que je sais un petit peu en didactique. J'ai encore, si on termine, comme on dit dans les colloques américains, par une note personnelle, j'ai encore dans la tête, j'allais travailler avec lui à l'IREM de Lumini, à Marseille, et puis j'ai enregistré nos entretiens, parce que je l'entretenais et il m'expliquait le sens du monde didactique. Et puis après, je revenais par le chemin qui passe au-dessus des Calanques, et puis j'écoutais la voix de Mercier en regardant la mer Méditerranée. Donc vous voyez à quel point c'était beau. Et ça m'a toujours beaucoup, beaucoup fasciné, beaucoup apporté. Et ça m'a même fait oublier que quelquefois, d'ailleurs, quand je travaillais avec lui et que je prenais la parole, inexplicablement, il s'endormait, mais du sommeil du juste, bien entendu.